Bonjour, vous êtes sur D4B 90.4 à Mel 101.4 à Niort. Vous écoutez L'Oiseau Lire avec
Marie,
Dani,
Marie-Hélène.
Une émission pour vous faire partager notre amour des livres, nos coups de cœur.
Nous sommes dans la Roumanie de Ceaușescu. Nadia Comăneci, 14 ans, enfant prodige de la gymnastique, va remporter un 10 sur 10 aux Jeux Olympiques de Montréal. Cette performance va conditionner les années qui suivront, jusqu'à son exil en Amérique. La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafont. Stéphania accompagne Nadia à l'internat le 27 décembre et assiste à l'entraînement. Elle voulait se couvrir les yeux lorsque les gymnastes, d'un bond, explorent l'horizon. Cette inversion du sol et du plafond, l'air rendu élastique. Sa fille recommence, remonte sur la poutre, tombe, hors d'haleine. Elle se saisit d'une gourde et boit une gorgée à peine avant de retenter un double salto arrière. À 16h, sur un signe de Bella, on vide le gymnase, on congédie la femme de ménage. Les autres entraîneurs et même le pianiste ne restent que Nadia, Bella et Stéphania, à qui Bella fait promettre de ne rien rapporter de ce à quoi elle va assister. On tire les rideaux, on allume l'électricité en pleine journée. C'est comme si elle s'absentait. L'enfant semble traversée d'une mission dont elle-même ignore le nom. Pas un regard vers sa mère ni vers lui. Son visage pâle et tendu, les lèvres serrées, des cernes sur les yeux, elle prend une grande inspiration et fait un signe de tête à Bella. Il la soulève, la hisse directement sur la barre haute. Elle entame le mouvement de balancier nécessaire. Un élan. Puis, au signal de Bella, elle lâche prise et effectue un tour complet sur elle-même entre les barres. Ses cuisses s'ouvrent en écart. Sa nuque frôle le bois. Elle se rattrape de justesse. Cette surprise est un secret, une déclaration de suprématie mondiale dont personne ne connaît l'existence encore. Ce saut inimaginable pour lequel il faut oublier os fracturé, tendons sectionnés et vertèbres fêlées, si jamais, pour lequel il faut jouer follement hors piste. Cet inimaginable saut qui provient de l'erreur d'un matin, quelques mois auparavant. Nadia s'apprête ce jour-là à réaliser un salto classique. Est-ce son corps qui, pour ne pas mourir, cherche une échappatoire au moment où ses mains glissent et qu'elle rate la barre? Son bassin cogne violemment le bois. Bella bondit vers elle, mais trop tard. De toute façon, si elle... ce sera toujours trop tard. Elle a réussi à s'agripper à la barre qu'elle a lâchée. Il lui propose un verre de limonade, une pause. Elle refuse, très pâle, comme si elle allait vomir. Puis se ravise, désorientée, abasourdie et surexcitée aussi, car elle n'a pas chuté. Ils se taisent. Qui des deux réussit à retrouver et déchiffrer ce qui a surgi pour le réécrire au propre? Peut-être que ce n'est pas lui qui ose proposer de refaire le chemin de la chute évitée, mais elle. Dès le lendemain, Bella et la petite se mettent au travail pour apprivoiser la merveilleuse erreur. Les figures sont classées selon leurs difficultés. Une figure A est considérée comme simple. B est plus complexe. Les E ne sont réalisés que par très peu de filles dans le monde. Disons qu'on appellera ça un super E. Bella, lorsqu'il envoie au CIO les programmes de ses gymnastes pour Montréal, ne mentionne aucun E, encore moins de super E. Après tout, à Munich, les soviétiques avaient pris tous les autres pays de cours en oubliant de décrire les figures du programme d'Olga. Comment rendre compte d'une petite fille qui décline les dangers comme autant de comptines dont elle sera bientôt lassée? La chef des juges recalcule les points, incrédule. Elle cherche des failles pour ôter quelques centièmes. Il n'y a rien. C'est 10. Au Japon, la semaine suivante, c'est encore 2 fois 10, au bar et au saut. Bella scrute ses cernes, son odeur. Boit-elle suffisamment entre les entraînements? Et il doit également s'occuper de celles qui forment le décor maintenant. Des figurantes, les autres filles de l'équipe, ennuyeuses, prévisibles, leur peur et leur fatigue qu'elles tentent de dissimuler quand Nadia, elle, est une plante carnivore de danger dont il faut la gaver. Elle suit ce que son corps lui dicte, ce corps capable d'inscrire le feu dans l'air. Elle grignote l'impossible, le range de côté pour laisser de la place à la suite. Toujours la suite. Et Nadia, mais que dire de Nadia ? Elle fascine par sa technique. Elle excelle, c'est sûr. Mais combien de temps faudra-t-il aux Russes pour en sortir une sur le même modèle ? Une super E ? Quelques mois ? Et si tu n'avais que 3 adjectifs pour la décrire, que dirais-tu de Nadia ? Sérieuse, parfaite, imperturbable, impeccable, précise, impressionnante. Ce qu'il lui faut, c'est un truc, un putain de truc. Tu vois, comme une étiquette simple, se répète-t-il, totalement ivre à présent. Nadia, qui déjeune une limonade, est assise en tailleur sur le grand tapis de sol. Ce carré si usé par endroits qu'on ne distingue plus la ligne blanche qui le délimite. Elle hoche la tête en rythme et se lève. Puis debout, face au pianiste, pour l'amuser, elle esquisse quelques gestes exagérément saccadés, une parodie de film muet. Elle avance vers Bella en attaquant le sol de ses talons, les bras ballants. Elle est assez drôle, bien plus qu'elle ne se le permet avec eux d'habitude. Elle cabotine pour détendre l'ambiance. Mais par-dessus tout, son geysa en la regardant, elle est adorable, insupportablement mignonne. On voudrait lui pincer la joue, lui filer une fessée et la relancer sur la piste. Encore et encore, il écrit à partir d'elle dès ce jour. Il la reformule à peine. Il y a peu à retoucher, elle est déjà là. Quand les chichis sont en place, c'est ainsi qu'il désigne les pas de danse, Bella parsème la chorégraphie d'acrobatie vierge de nom. Il invente ce qu'il rêve d'elle et en même temps qu'il ordonne ce qu'elle exécute, elle réussit ce qu'on n'osait pas espérer qu'elle accepterait. Elle tombe, à plat dos, à plat ventre, presque sur la tête, et il se précipite un matin vers elle, l'angoisse de la commotion cérébrale. La rapidité avec laquelle elle se dégage de son étreinte et lui tend les mains pour qu'il la hisse de nouveau. On lui bande les chevilles, son talon d'Achille est gonflé et forme une excroissance protégée d'une mousse retenue d'un scotch. Stigmate des nombreuses fois où elle a heurté la barre la plus basse du pied. Ses genoux s'infiltrent de liquide, une réaction au choc répété, ses rotules se couvrent de cornes. Il faut veiller à ce que les ampoules ouvertes de ses paumes ne s'infectent pas avec la poussière du sol et la magnésie. Son ratio muscle-gras est si parfait que lorsqu'elle court pour se lancer dans des soleils renversés, on doute qu'elle repose les pieds au sol. Dan se plaint. Nadia ne cesse d'aller plus vite que la musique dans sa première diagonale. « Suis-la !» lui répond-on. « Colle-la !» À l'approche des jeux, plus personne d'extérieur n'est autorisé à rentrer dans le gymnase. On ferme les portes à clé. On invente des noms de code pour des figures inédites. Le super-héros est baptisé Salto Comaneci, naissance qu'on officialise en improvisant une fête un soir chez Bella. Il offre une nouvelle poupée à Nadia pour sa collection.
Thank you.
Dans son dernier livre intime et puissant, Marceline Loridan-Ivens, rescapée des camps de la mort, évoque les hommes qui ont traversé sa vie. Ce livre s'appelle « L'amour après ». Mais avant ce livre, elle a écrit un autre livre magnifique sur son père, qui lui n'est pas revenu des camps. C'est celui-ci que je vais vous lire. « Et tu n'es pas revenu » de Marceline Loridan-Ivens. « J'ai été quelqu'un de gai, tu sais, malgré ce qui nous est arrivé. Gai à notre façon, pour se venger d'être triste et rire quand même. Les gens aimaient ça de moi, mais je change. Ce n'est pas de l'amertume, je ne suis pas amère, c'est comme si je n'étais déjà plus là. J'écoute la radio, les informations, je sais ce qui se passe et j'en ai peur souvent. Je n'y ai plus ma place. C'est peut-être l'acceptation de la disparition ou un problème de désir. Je ralentis. Alors je pense à toi, je revois ce mot que tu m'as fait passer là-bas, un bout de papier pas net déchiré sur un côté. Je vois ton écriture penchée du côté droit et 4 ou 5 phrases que je ne me rappelle pas. Je suis sûre d'une ligne, la première. Ma chère petite fille, de la dernière aussi ta signature, Shloim. Entre les deux, je ne sais plus. Je cherche, je ne me rappelle pas. Je cherche, mais c'est comme un trou et je ne veux pas tomber, alors je me replie sur d'autres questions. D'où te venait ce papier et ce crayon? Qu'avais-tu promis à l'homme qui avait porté ton message? Ça peut paraître sans importance aujourd'hui, mais cette feuille pliée en 4, ton écriture, les pas de l'homme, de toi à moi, prouvaient que nous existions encore. Pourquoi est-ce que je ne m'en souviens pas? Il m'en reste Shloim et sa chère petite fille. Ils ont été déportés ensemble, toi à Auschwitz, moi à Birkenau. Ils n'étaient pas nombreux, les détenus qui pouvaient circuler de l'un à l'autre. Lui, c'était l'électricien, il changeait les rares ampoules de nos blocs obscurs. Il est apparu un soir, peut-être était-ce un dimanche après-midi, en tout cas, j'étais là quand il est passé. J'ai entendu mon nom, Rosenberg. Il est entré, il a demandé « Marceline ?»« C'est moi », je lui ai répondu. Il m'a tendu le papier en disant « C'est un mot de ton père ». Nous n'avions que quelques secondes, nous pouvions être tués pour ce simple échange. Et je n'avais rien pour te répondre, ni papier, ni crayon. Les objets avaient déserté nos vies, ils formaient des montagnes dans des hangars où nous travaillons. Les objets appartenaient aux morts. Alors j'ai sorti la pièce d'or que j'avais volée au triage des vêtements. Je l'avais trouvée dans un ourlet, dissimulée comme un trésor du pauvre, et je l'avais enveloppée dans un petit bout de tissu. Je ne savais pas quoi en faire, où la cacher, ni comment l'échanger au marché noir du camp. Je l'ai tendue à l'électricien. Je voulais qu'il te la donne. Je me doutais qu'il la volerait. Tout le monde volait au camp. Dans le bloc, on entendait toujours des cris « On m'a volé mon pain !» Alors j'ai bafouillé dans un mélange de yiddish et d'allemand appris au camp que s'il comptait la garder, qu'il t'en donne la moitié. L'as-tu reçu ? Je ne saurais jamais. Je l'ai lu tout de suite, ton mot, j'en suis sûre. Je ne l'ai montré à personne, mais j'ai dit autour de moi « Mon père m'a écrit ». D'autres mots de toi me hantaient alors. Ils recouvraient tout. Tu les avais prononcés à Drancy. Nous ne savions pas encore où nous allions, et comme tous les autres, nous répétions. Nous allons à Pitchipoy, ce mot yiddish qui désigne une destination inconnue et sonne doux aux oreilles des enfants qui le répétaient pour parler des trains qui s'en allaient. « Ils vont à Pitchipoy », disaient-ils, articulant pour se rassurer ce que les adultes leur avaient soufflé. Mais je n'étais plus une enfant, j'étais grande. Dans ma chambre, j'avais changé le décor, interrompu mes rêves, congédié mes jouets, dessiné des croix de Lorraine sur le mur et accroché au-dessus de mon bureau les portraits des généraux de la Première Guerre. Tu te rappelles que la directrice de l'école t'avait convoqué ? Elle avait trouvé mon journal intime noirci de rumeurs et de reproches contre la surveillante générale et certains professeurs, mais surtout, véritable brûlot gaulliste. « Votre fille va passer en conseil de discipline, il vaut mieux que vous la retiriez de l'école », avait-elle dit pour nous protéger. Elle t'avait laissé mon journal. Tu l'avais lu probablement et tu y avais découvert que j'étais amoureuse d'un garçon. Je le retrouvais dans le bus qui nous ramenait après l'école. Je lui donnais chaque semaine mes tickets de pain et en échange, il faisait mes devoirs de maths. Il n'était pas juif. Tu ne m'avais pas parlé pendant 2 mois ensuite. Nous avions atteint le moment de nous disputer comme un père et sa fille de 15 ans. Alors à Drancy, tu savais bien que rien ne m'échappait de vos airs graves à vous les hommes, rassemblés dans la cour, unis par un murmure, un même pressentiment que les trains s'en allaient vers le Grand Est et ces contrées que vous aviez fuies. Je te disais, nous travaillerons là-bas et nous nous retrouverons le dimanche. Tu m'avais répondu, toi, tu reviendras peut-être parce que tu es jeune. Moi, je ne reviendrai pas. Cette prophétie s'est inscrite en moi aussi violemment et définitivement que le matricule 78750 sur mon avant-bras gauche, quelques semaines plus tard. Il y eut aussi ce jour où nous nous sommes croisés. Mon commando était allé casser du caillou, tirer des wagonnets et creuser des tranchées sur la nouvelle route pour le crématoire numéro 5. Nous avancions, comme toujours, en rang de 5. Nous revenions vers le camp, c'était à peu près 6 heures du soir. Sais-tu que ce moment n'appartient pas qu'à nous, qu'il figure dans les souvenirs et les livres de ceux qui en ont été les survivants, car tous les rêves de retrouvailles ont jailli dans le camp de la mort. Tous les corps des nôtres encore debout ont frémi lorsque nous nous sommes vus, sommes sortis de nos rangs et avons couru l'un vers l'autre. Je suis tombée dans tes bras, tombée de tout mon être. Ta prophétie était fausse, tu vivais. Ils auraient pu te juger inutile dès l'arrivée, tu avais un peu plus de 40 ans, une mauvaise hernie à l'aine qui t'obligeait à porter une ceinture et une longue cicatrice au pouce, héritée d'une blessure à l'usine. Mais tu étais encore assez fort pour être leur esclave, comme moi. Ton rôle était de vivre, pas de mourir. J'étais tellement heureuse de te revoir. Nous retrouvions nos sens, le toucher, le corps aimé. Cet instant nous coûterait cher, mais il interrompait, pour quelques précieuses secondes, le scénario implacable écrit pour nous tous. Un SS m'a frappé, traité de putain, car les femmes ne devaient pas communiquer avec les hommes. « C'est ma fille !» tu criais tout en me soutenant encore. Shloïm et sa chère petite fille. Nous étions vivants, tous les deux. Ton raisonnement ne tenait plus, l'âge n'y faisait rien. Aucune logique n'existait dans le camp. Seule comptait leur obsession du nombre. On mourait tout de suite ou un peu plus tard, on n'en sortirait pas. J'ai juste eu le temps de te donner le nom de mon bloc. Je suis au 27B.
Thank you. Alors, j'ai choisi de vous lire un extrait de L'Arc-en-Ciel blanc de Akira Yoshimura, simplement parce que je le trouve très japonais. C'est beau, poétique, touchant, émouvant, un peu mystérieux. Yoshimura nous avait enchantés avec Le Convoi de l'eau et il recommence dans ce recueil de quatre nouvelles. L'extrait vient de la nouvelle Un été en vêtements de deuil, dans laquelle Kiyoshi découvre le secret de sa grand-mère. L'Arc-en-Ciel blanc de Akira Yoshimura. L'été, Kiyoshi avait du mal à dormir dans son réduit. Environné de murs épais sur trois côtés, il n'avait même pas de lucarne. On disait qu'auparavant, c'était un débarras où on avait mis une vieille commode et un coffre. D'ailleurs, la forme des meubles se découpait nettement en plus clair sur les murs. « C'est là que tu es né », se rappelait-il avoir entendu. De fait, Kiyoshi ne se souvenait pas d'avoir dormi dans un autre endroit. Et c'était sans doute pourquoi, dans cette pièce minuscule, il ressentait une tranquillité paisible, teintée de nostalgie. Dans la chaleur suffocante, Kiyoshi se réveillait une ou deux fois par nuit. Alors, il tendait la main pour faire coulisser le panneau qui le séparait du couloir, et l'air glacé de la vieille maison avec ses piliers et son haut plafond pénétrait dans la pièce. Kiyoshi, tel un petit poisson qui goûte l'eau que l'on vient de renouveler dans son baquet, respirait un moment, les pupilles brillantes dans l'obscurité. C'est ainsi que bientôt, oubliant la chaleur étouffante, il parvenait d'habitude à se rendormir. Une fois, il s'était réveillé au milieu de la nuit. Son vêtement était trempé de sueur. Il avait ouvert le panneau et, à moitié ensommeillé, s'était retourné à maintes reprises dans la chaleur suffocante. Ses cheveux courts sur la nuque brillaient de gouttes de transpiration. Après s'être retourné un nombre incalculable de fois, il avait ouvert les yeux. Quelqu'un marchait dans le couloir. Il avait l'impression d'entendre un bruit de pas sur le plancher. Était-ce une illusion ? L'atmosphère pénible de la maison baignait son corps en sueur. Il se faisait des idées. Kiyoshi essaya de se détendre. Il se retourna, ferma les yeux, mais les rouvrit aussitôt. Il avait perçu le léger grincement du plancher. À force d'emprunter le long couloir qui tournait plusieurs fois pour se rendre au cabinet la nuit, Kiyoshi avait repéré l'endroit où le plancher grinçait. Il n'était pas très loin de sa chambre, là où le couloir tournait à gauche au deuxième coin. S'il avait eu l'impression que le grincement provenait de loin, c'est parce que le couloir tournait à angle droit. Kiyoshi sonda précautionneusement les ténèbres autour de lui. L'obscurité était dense, mais c'était peut-être l'aube. Était-ce le bruit de la domestique déjà levée ? La bambouseraie détrempée par la condensation de l'humidité nocturne et le visage de Tokiko s'imposèrent à lui. Dans le bosquet encore sombre, y avait-il beaucoup d'escargots, non loin des racines, qui, tout brillants de rosée, étiraient et contractaient leurs tentacules ? Il sentait qu'il n'avait pas encore assez dormi, mais se redressa sur son matelas. Il avait envie d'exposer le plus vite possible son corps encore tiède et humide de transpiration à l'air frais du matin. Kiyoshi saisit avec précaution l'aiguille à repriser sur son bureau et après avoir entrouvert le panneau de sa chambre, il se glissa dans le couloir. Il tourna à gauche au bout, leva les yeux vers la petite lucarne à la partie supérieure du mur. Alors que la lumière matinale passant par là éclairait toujours légèrement le couloir, seule la profonde obscurité de la nuit se découpait. Les jambes de Kiyoshi se pétrifièrent. Il entendit nettement le grincement, celui de la deuxième planche après le second tournant du couloir. Les cabinets de la domestique étant ailleurs, seul Kiyoshi empruntait ce couloir. Comme cela faisait près de 30 ans qu'il avait été construit, les matériaux avaient séché. Il ne s'agissait donc pas d'un craquement provoqué par le travail du bois. Kiyoshi, dans l'obscurité, se raidit. Soudain, il fut attiré par quelque chose de brillant dans son champ de vision. Le plancher du couloir, à quelques pas de l'endroit où il se trouvait, luisait comme s'il était mouillé. Non loin de là, deux veilleuses étaient grillées, si bien que cela aurait dû être l'endroit le plus obscur. Kiyoshi avança avec précaution dans le couloir avant de se décider à tourner au coin. Il découvrit alors une scène totalement différente de celle dont il avait l'habitude. Il en fut troublé comme s'il s'était égaré dans une autre maison. Trois lattes du plancher, à l'endroit qui grinçait toujours, avaient été enlevées, ménageant un trou rectangulaire d'où s'élevait une lueur qui éclairait vaguement le plafond. Inquiet à l'idée d'être englouti, il s'approcha craintivement et regarda dans le trou. Il y découvrit un monde inimaginable pour lui. À partir de ce trou dans le couloir, une volée de marches descendait vers le sol en béton d'un réduit de quelques mètres carrés. Une imposante trappe en fer, comme une porte de coffre-fort encastrée dans le sol, était ouverte, tournait vers le ciel et il voyait encore plus bas la luminosité d'une pièce brillamment éclairée. Il y avait donc un double sous-sol, car de solides marches de pierre menaient à une autre pièce sous le sol en béton de la première. Kiyoshi, un mélange de curiosité et de frayeur dans le regard, le visage collé au sol du couloir, surplombait la pièce lumineuse qu'il apercevait dans l'entrebâillement de la trappe. Il aperçut dans son champ de vision la partie d'un dos. Il avait déjà vu ce vêtement de nuit à fines rayures. Sa grand-mère était assise bien droit, comme si elle conversait avec quelqu'un, mais il n'entendait aucune voix. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Sa grand-mère n'était-elle pas en train de contempler un trésor en cachette ? Cette cave avait sans doute été aménagée pour dissimuler la fortune familiale du grand-père. L'épaisseur de la trappe de fer encastrée dans le premier sous-sol lui en donnait la certitude. Kiyoshi, excité par ses imaginations d'enfant, déplaça son visage pour regarder l'intérieur de la pièce du second sous-sol. À ce moment-là, le corps de sa grand-mère remua et il aperçut son visage de profil. S'il croisait son regard, la peur remonta soudain le long de sa colonne vertébrale. Kiyoshi recula en rampant sur le sol et tournant les talons revint sur ses pas en retenant sa respiration. De retour dans sa chambre, il en referma doucement le panneau et se recoucha. Dans l'obscurité, l'image rémanente de la lumière éblouissante qu'il avait vue s'étirait, blanche, à l'infini. Kiyoshi mit beaucoup de temps à se rendormir.
The final curtain. There's the dotted line. No more celebration. No rum, no brandy, no sparkling wine. The bad news has arrived. It's closing time. Put on all your armor, march yourself in line, swallow all your feelings. 'Cause it's coming down the hill tonight. The bad news has arrived. It's close.
Vous venez d'entendre des extraits de La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafont, lu par Marie, et Tu n'es jamais revenu de Marceline Loridan-Ivens, lu par Dany, L'arc-en-ciel blanc d'Akira Yoshimura, lu par Marie-Hélène. À bientôt.